L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans
le. Les lents des roues, le.
En espagnol?
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Chères auditrices et auditeurs des rendez-vous de l'Opéra Studio, bien le bonjour. Je reçois aujourd'hui une jeune mezzo-soprano qui s'appelle Inès Prevet. Chère Inès, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors pour commencer tout de suite ce moment ensemble, pour mieux te connaître, la toute première question que je pose à tous mes invités, depuis quand fais-tu de la musique ?
J'ai commencé la musique par le piano, quand j'avais 6-7 ans à peu près. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé jouer les morceaux et le résultat final, la musicalité, etc. Mais j'étais pas du tout travailleuse et ça m'ennuyait vraiment très profondément de devoir déchiffrer, travailler avec le métronome, etc. Et donc ça a été une expérience assez difficile, mais ça m'aide beaucoup aujourd'hui d'avoir des bases de piano. Donc je remercie mes parents de m'y avoir mis.
Et oui, c'est ça. Mais alors, tu as commencé assez jeune et donc il aurait fallu que tu travailles un tout petit peu tous les jours, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes par jour, enfin.
Un peu tous les soirs.
Oui. Et tu avais du mal.
J'avais beaucoup de mal. Alors que quand j'ai commencé le chant, tout ce qui était le travail préparatoire m'a plu et vraiment beaucoup dès le début.
Ah, et d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant. Quel a été finalement l'élément qui a fait que tu t'es rendu compte que c'était le chant que tu voulais faire? Est-ce que tu as assisté à un concert ou est-ce que tu as rencontré un prof de chant ou un chanteur ou je ne sais pas?
C'était un peu le hasard parce que je faisais partie des écoles CHAM, donc en piano, et ensuite il y avait la chorale. Et donc je me suis inscrite en CHAM chorale, etc. Donc il y avait un petit peu d'heures de chant par semaine, mais c'était pas non plus très intense. Et je déménageais beaucoup, et lors d'un de mes déménagements à Rennes, pour pouvoir continuer en classe CHAM, il fallait rentrer au sein de la maîtrise de Bretagne. Donc là, d'un coup, c'est passé à une autre dimension parce qu'on avait beaucoup plus d'heures de chant. Mais je connaissais pas encore très bien le chant lyrique, donc je chantais, on chantait beaucoup d'airs religieux, etc. en chœur. Et à côté, moi, ce que j'adorais, c'était plutôt les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, ça, je chantais tout le temps ça.
Ah, les comédies musicales, enfin, oui, voilà.
Oui, les comédies musicales de Jacques Demy. Aussi, avec mes amis, on faisait des arrangements de Barbara à plusieurs voix, etc. Donc c'était
plutôt ça que
j'écoutais.
Ah oui, t'étais un peu dans l'improvisation, même un peu la composition, finalement.
Les arrangements, plus simple. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était de la composition.
Déjà. C'est bien déjà.
Et fin de la troisième, mes amis passaient, donc la maîtrise de Bretagne s'arrêtait, on s'arrête quand on rentre en seconde. Et donc, avec toutes mes amies, passaient le concours pour rentrer en chant lyrique au conservatoire. Et donc, je l'ai fait pour faire un peu comme elles, mais je sais que j'aimais bien le chant, mais j'avais pas plus d'attente que ça. Et au final, j'ai été sélectionnée, ce qui était un peu déjà un petit hasard. Et d'un coup, la professeure que j'ai eue était vraiment géniale parce qu'elle m'a donné très rapidement l'envie, que ça soit pendant les cours où je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable de développer cette technique, de repousser ses limites. Le fait aussi qu'au début, on ne sait pas à quoi sa voix va ressembler. On ne sait pas vraiment quelles sont nos caractéristiques vraiment très fortes et innées. Et donc ça, j'avais beaucoup aimé et elle a eu la bonne idée de me mettre sur scène très rapidement dans les masterclass, dans les projets, etc., dès le début. D'accord. Et donc, directement,
ça
a mis l'adrénaline.
Et tu étais dans le bain, en fait.
Exactement.
Finalement. Je tiens à préciser pour les auditrices et auditeurs qui ne le sauraient pas qu'une classe CHAM, c'est une classe horaire aménagée musique. Donc, c'est un cursus scolaire qui permet aux enfants qui font de la musique de pouvoir suivre d'inclure dans les heures de cours des cours de musique, de chant ou bien de piano, d'instruments, etc.
Exactement.
Voilà. Et donc, toi, tu étais dans ce type d'école et c'est comme ça que petit à petit, tu es arrivée d'abord à la maîtrise Bretagne et puis au conservatoire et dans la classe de chant lyrique. C'est ça. Et donc, ton premier cours de chant, finalement, ton vrai premier cours de chant, parce que tu chantais, puisque tu étais dans une maîtrise, est-ce que tu en as un souvenir particulier ?
Du premier cours en lui-même, non. Je me rappelle plutôt les premiers cours, de manière générale, la première année. Et je me rappelle quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était les vibrations qu'on sentait quand on commençait à avoir une technique un peu plus lyrique.
Oui.
Et le fait de vraiment ressentir mes propres vibrations chantées dans ma tête, dans mon cerveau, etc. Et ça, j'ai tout de suite adoré.
Oui, parce que cette technique, justement, est une technique pour placer la voix de telle façon que toutes ces harmoniques soient réunies, qu'elles vibrent au maximum dans le corps, qui devient finalement un peu la caisse de résonance, si on peut dire, si on schématise beaucoup. Et finalement, toutes ces sensations, il faut les découvrir. Enfin, on les découvre dans l'apprentissage, justement, du chant lyrique, quoi, de la technique de chant lyrique. Et donc, tu as commencé à chanter des airs tout de suite, des airs très lyriques, ou bien tu as commencé tranquillement avec des airs plus modeste.
Plus modeste, je dirais. Je faisais beaucoup de mélodies aussi au début et j'aimais beaucoup ça. Je me rappelle la première année avoir beaucoup travaillé en sourdine de Debussy, avoir travaillé Ombra mai fu de Handel. Donc ça, c'est quand même... C'est un air qui est compliqué, mais qu'on peut chanter assez rapidement, pas forcément très bien.
Oui, mais... disons que c'est un... On peut commencer avec
voilà,
ça.
Voilà, on peut commencer et ensuite...
Voilà, bon, c'est un bel exercice,
tard,
mais bien que ce soit un air magnifique, bien sûr.
Exactement.
Oui, oui. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc, tu as commencé donc par la mélodie, un peu d'opéra ancien, finalement. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, j'imagine que tu as exploré les rôles à mesure que... Les caractéristiques de ta voix se sont faites de plus en plus précises. Donc, ton professeur a orienté, j'imagine, ton répertoire.
Oui. Alors, au début aussi, je faisais un petit peu en fonction de ce que j'aimais. Donc, j'avais entendu le premier air d'opéra qui m'a vraiment marqué. C'était « Mon cœur s'ouvre à ta voix » dans « Samson et Dalila » de Saint-Saëns. C'était une version chantée par Elina Garanza. Et je me rappelle avoir écouté ça et m'a dit « Waouh, c'est incroyable, c'est trop bien en fait d'être mezzo, d'être chanteuse de lyrique, etc. » Et donc j'avais commencé à le travailler un petit peu comme ça chez moi. Et un jour, je le ramène à ma professeure qui s'appelait Norma Lopez. Et elle m'a dit « Ah non, ça, tu chanteras ça dans
un tout petit peu plus tard.
Une dizaine d'années,
oui, c'est ça.
Voire plus. »
Oui, mais c'est bien aussi d'avoir ce but-là, parce qu'en fait, c'est ça qui t'a donné envie.
C'est aussi de trouver des airs. Et ensuite, il a fallu justement ajuster avec elle et voir qu'est-ce qui était chantable, à quel âge, par quoi commencer.
Voilà, parce que l'instrument, la voix, c'est votre instrument. Et l'instrument, quand on a à chaque âge, l'instrument évolue. Et donc, il faut le faire évoluer dans le bon sens. Il ne faut pas l'abîmer. Il faut le muscler comme il faut, etc. Donc, c'est très, très important. D'où l'importance énorme du professeur de chant et de la façon dont on débute un chanteur ou une chanteuse.
Ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc, j'avais ce premier professeur-là avec lequel je suis restée 2 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Paris et je suis rentrée dans la classe de Anne Constantin au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Et elle a vraiment construit toute ma voix techniquement. Et elle prêtait très attention au fait de... d'avoir justement une voix qui se construit sainement et lentement et de prêter attention au fait qu'on est jeune, donc on doit chanter des airs très jeunes, etc. Et elle, c'était vraiment un de ses points d'honneur et ça m'a permis de justement pas... J'ai jamais été fatiguée réellement vocalement, j'ai jamais eu de problème, etc. Je pense que c'est beaucoup lié à ça aussi.
Oui, mais Anne Constantin, qui est une très belle artiste, qui a fait une très belle carrière, qui était notamment une Sophie dans Werther, etc., que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Oui,
je ne savais pas.
Oui, on se connaît un peu tous dans le métier. Est-ce que tu as commencé la musique parce que ta famille était une famille de musiciens ou alors parce que tu as eu vraiment envie, ce déclic, parce que tu as entendu « Mon cœur s'ouvre à ta voix » ou parce que tu étais en classe CHAM? Peut-être que si on t'a mis dans une classe CHAM, c'est qu'il y avait une petite arrière-pensée dans la tête de tes parents. Raconte-nous.
Oui, alors mes parents ne sont pas musiciens. Par contre, ils écoutaient beaucoup de musique à la maison, de musique assez variée. Il y avait un petit peu de musique classique, beaucoup de piano, parce que mon père aime beaucoup le piano, donc du Chopin, du Liszt, etc. Il y avait les Pink Floyd, il y avait la variété française. Et ils ont voulu qu'on se mette à la musique. Alors, ils ne pensaient pas du tout que je voulais ensuite en faire professionnellement en vieillissant. Mais c'était un peu pour... je crois que mon père aurait vraiment beaucoup aimé jouer du piano. Et donc, il se disait que c'était bien, enfant, d'avoir les bases d'un instrument de musique et ensuite pour continuer. Mais dans leur tête, c'était plutôt, en tout cas au début, vraiment une notion de loisir, de plaisir, etc. Par contre, j'ai un frère qui est musicien, mon grand frère. On a 15 ans d'écart, donc ça m'a beaucoup inspirée, surtout à l'âge où où on se dit qu'on aimerait bien faire ce métier, mais qu'on a des appréhensions parce que ça peut être quelque chose d'assez instable, puis qu'on ne connaît pas du tout les milieux musicaux et tout ça, ça peut être assez vertigineux. Et donc, c'était bien de l'avoir et de me rendre compte qu'il arrive à en vivre, que c'était un métier aussi qui nécessitait de la rigueur, un cadre, etc. Et alors, il a commencé par des bases de musique classique. Et ensuite, maintenant, il est assez éclectique. Il fait du jazz manouche, des musiques actuelles, etc. Mais il y a toujours ça qui nous relie, même si on est dans des milieux et des styles très, très opposés et différents. C'est quand même, il y a quand même quelque chose de très fort.
Donc... Bah, vous avez quand même ce goût pour l'expression musicale, de toute façon, dans la famille. Oui. Ça, c'est chouette. Et c'est très beau parce que même si on fait un autre métier, parce que je pense que tu as fait des études, tu as fait des études supérieures, ça n'empêche que ce pan-là de ta personnalité a pris un peu le dessus.
Oui.
En fait, ça n'a pas été qu'une façon de te détendre ou de t'évader, c'est que tu as voulu en faire vraiment ton métier.
Bah, j'ai fait une licence de sciences des organisations à l'Université Paris-Dauphine. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'ils ont un cursus qui s'appelle Talent, qui est pour les musiciens, mais aussi les sportifs, les entrepreneurs, etc. Et ça permet justement pour les jeunes qui ne savent pas encore, parce qu'ils aimeraient bien faire un métier dit métier passion, etc., enfin, qui les anime, mais en même temps, ils ont peut-être un peu peur des conséquences, etc. Ça permet d'avoir un peu une roue de secours.
Oui, mais oui.
D'avoir une petite formation. Et donc, il y en a qui vont jusqu'au master. Moi, je me suis arrêtée à la licence parce qu'ensuite, j'ai été prise à l'Opéra Studio et je me suis dit,
on va en parler.
Commençons, le tout début de carrière, quoi.
Oui.
Et que ça a aussi donné à mes parents un peu un gage de, ça peut être un réel métier, tu peux te lancer dedans, etc.
Il y a une vraie filière, c'est-à-dire que
exactement.
Parfois les parents ont un peu peur parce qu'ils ne connaissent pas les filières, ils ne connaissent pas... Mais en fait, c'est comme... c'est une spécialité, c'est un métier, même si c'est un métier passion, c'est un métier qu'on peut apprendre, qu'on peut développer dans des structures très sérieuses, qui sont reconnues, etc.
Bien sûr.
Donc ça rassure beaucoup, et les parents, et les jeunes aussi, en fait, de savoir qu'on est encadré par des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui vont permettre d'évoluer et de grandir et de devenir des pros.
Oui.
Mais bien sûr. Faisons une première pause avec un premier extrait que tu as choisi de nous faire écouter, Inès. On écoute.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille, que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé.
Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous parler.
cherché partout, il ne l'a pas trouvé.
Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son sang, puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi.
Je reçois aujourd'hui Inès Prevet qui a voulu nous faire écouter cette belle chanson de Maxence, extrait des Demoiselles de Rochefort. Inès, pourquoi as-tu voulu nous faire écouter cet extrait ?
J'ai choisi cet extrait parce que les Demoiselles de Rochefort, c'est ce qui a bercé toute mon enfance et tous mes débuts de petite chanteuse. Je connaissais tout le film par cœur, pareil pour Les Parapluies de Cherbourg, pour Peudane. Et avec mes amis, on passait un temps très important de nos journées à chanter ces chansons en boucle. Et encore maintenant, c'est un langage qui me parle beaucoup. Alors je sais que c'est un peu plus dur de s'y mettre quand on est adulte, j'ai l'impression, à ce type de film, ça peut être un petit peu qualifié par certains de kitsch, etc. Le fait que ça soit très chanté, très coloré, etc. Mais pour moi, ça me parle encore et c'est un petit peu des films doudous quand j'ai besoin de me remettre dans la musique ou juste de me sentir bien, je les réécoute en boucle.
Bah c'est une très bonne idée. C'est vrai que c'est un film doudou. C'est une très belle expression. En effet, le film doudou. Je retiens. Merci Inès. Poursuivons notre entretien. Je voudrais maintenant qu'on parle plus spécifiquement de ta voix. Mm-hmm. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une mezzo-soprano, parce que tu es une mezzo-soprano?
Alors, j'ai l'impression que ça change beaucoup selon les époques.
Ah bah vas-y, lance-toi.
Pour moi, en tout cas... je dirais qu'une mezzo-soprano, c'est une chanteuse dont la zone de confort se situe dans les médiums. Donc, elle peut aller dans les graves, dans les aigus. Ensuite, ça dépend de quel mezzo. Il y en a qui montent vraiment très, très aigus, d'autres beaucoup moins et ont plus des graves étoffés, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la zone de confort. On préfère chanter une majorité de notes dans les médiums et ensuite avoir quelques aigus très flamboyants, quelques graves, etc. Mais c'est là où notre voix peut se reposer. Donc sur un opéra très long, c'est là où on aura une meilleure endurance. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça.
Oui, c'est assez intéressant Oui, c'est très clair. En fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, il ne faut pas penser qu'une mezzo ne chante pas dans l'aigu. C'est pas vrai, parce que les mezzos ont des aigus aussi, également. Donc c'est vrai, c'est la zone de confort dans les notes plutôt médiums, comme tu l'expliques, où la voix ne se fatigue pas et est posée plutôt naturellement, même si quand on fait une aiguë, c'est toujours dans sa voix naturelle. Mais ça demande peut-être un petit peu plus de technique, justement, pour atteindre ces notes.
Oui, et j'ai l'impression que c'est aussi des... Alors ça, je pense que ça dépend de chacun, mais en tout cas, pour moi, les aigus, ça a été un travail pour les obtenir. Les graves aussi, c'est un travail qui est encore d'actualité d'ailleurs. Mais les médiums se travaillent aussi toujours. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était là où ça semblait le plus évident. Même si c'est ensuite, il y avait à perfectionner, bien entendu.
Oui, c'est ça. Vous êtes partie de ce qui était ta zone de confort. Petit à petit, vous avez un petit peu augmenté l'ambitus de ta voix.
Exactement,
c'est ça. Et donc, comme tu le disais, tu es arrivée à l'Opéra Studio en septembre dernier. Avec grand plaisir, je t'ai reçu avec grand plaisir. Et maintenant que tu es là depuis... bon, d'abord commençons. Pourquoi as-tu voulu venir à l'Opéra Studio? Et comment s'est passé le recrutement? Enfin, comment on fait pour rentrer à l'Opéra Studio?
Alors, j'ai voulu passer l'Opéra Studio parce que je m'étais rendu compte que là où j'avais l'impression d'apprendre le plus... que ce soit techniquement, mais aussi vraiment scéniquement, musicalement, etc. C'était lors des productions. Donc au conservatoire, j'avais fait une production de L'Enfant et les Sortilèges, de Ravel, où je jouais l'enfant. Et ça m'avait... en un mois, je sentais que j'avais fait un bond vraiment très important, que ce soit l'endurance, le fait d'être vraiment tout le temps sollicité, parce que c'est un rôle qui est toujours sur scène, même si c'est un opéra assez court. Et ça m'a vraiment beaucoup appris. L'année dernière, j'ai aussi fait Mercedes dans Carmen et j'ai joué dans Fairy Queen de Purcell. Et je sentais à chaque fois que c'était des moments où il y avait vraiment l'avant et l'après. Et que chacune des productions apportait vraiment sur plein de plans Et en plus, c'est quand même quelque chose quand on est chanteur, qui est très excitant d'être sur scène. C'est vraiment les moments souvent qu'on attend le plus. Et donc, je me suis dit qu'apprendre vraiment sur scène, au contact aussi de tous les différents corps de métier de l'opéra où on a la chance de vraiment les connaître et travailler avec eux, ça pouvait être vraiment une étape qui pouvait être très enrichissante. Et d'un point de vue vocal, parce que bon, je continue aussi à prendre des cours de chant à l'extérieur, mais aussi même d'un point de vue comment gérer son stress, comment s'adapter à toutes circonstances, etc. Des choses qu'on apprend peut-être un peu moins au début dans les écoles. Mm-hmm. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment.
C'est ça. Et donc, pour postuler, comment ça s'est passé? Tu as envoyé un courrier en disant « je voudrais auditionner ». Comment ça se passe?
Alors d'abord, il y a une présélection qui est par vidéo et aussi par CV. Donc ça, c'était la première étape. Donc j'ai eu le plaisir de me rendre compte que cette étape avait été validée et qu'ensuite on était convoqué. Et à ce moment-là, lors de l'audition en réel, on peut dire, il fallait présenter 5 airs d'opéra qui étaient de notre choix. Et dans ces 5 airs-là, il y en avait un que l'on imposait et un qui nous était demandé par le jury ensuite. Et il y avait aussi un extrait théâtral de notre choix. Et c'était la première fois que pour un concours, je devais monter un extrait théâtral. Et c'était un petit challenge, mais j'ai beaucoup aimé cette expérience et je me suis dit qu'il fallait vraiment travailler ça de manière plus assidue.
Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on est chanteur d'opéra, on n'est pas que chanteur, il faut chanter, mais on joue la comédie. Mmh. Finalement, on raconte une histoire sur scène, donc il faut savoir chanter et jouer la comédie.
Exactement.
C'est pour ça que le lien avec l'extrait théâtral pour l'audition était important, enfin, est fait, voilà. C'est pour ça que le montrer qu'on est capable de faire passer un texte a une grande importance parce que après on rajoute le chant par-dessus ça. Donc faire passer le texte avec le chant, c'est encore une autre histoire. Et c'est ça l'art lyrique finalement. C'est ce que tu viens apprendre à l'Opéra Studio. Et ton quotidien à l'Opéra Studio est-il celui que tu imaginais?
Oui, plutôt. Alors j'avais pas imaginé quelque chose de très très concret et très précis parce que c'était un univers qui était assez flou pour moi. Mais je dirais que en termes d'organisation, c'est plutôt ce à quoi je m'attendais. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est comment on réagit vite à ce qui nous entoure et comment ça change vite notre perception des choses. Par exemple, avant, je faisais quelques concerts dans l'année, mais on va dire peut-être une dizaine, une quinzaine grand maximum. Donc c'était vraiment très... Même, je faisais jamais plus de 2 fois un même concert, par exemple. Alors qu'ici, à l'Opéra Studio, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions de se représenter. Et des fois, il y a certaines des productions qu'on fait, par exemple les Fantastics, je crois que si j'ai bien compté, on l'a fait 27 fois, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, une petite trentaine de fois.
en
oui.
un mois.
Oui.
Et donc, la gestion du stress, ça change. Enfin, par exemple, ça nous apprend vraiment sur la gestion du stress. Au début, je me rappelle du début d'année où chaque concert représentait vraiment une lourde charge de stress pour moi. Et je voyais les autres qui sont un peu plus rodés, qui sont un peu plus âgés.
Qui étaient là depuis l'année dernière, peut-être.
Voilà, et ouais. qui, eux, étaient beaucoup plus décontractés. Ils me disaient, non, mais tu vas voir, au final, on se rend compte que...
On y arrive.
Qu'on y arrive.
Ouais.
Et donc, je me rends compte que le stress négatif baisse... Tandis que l'adrénaline, etc., et le stress positif restent, heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait aussi. Mais sur la gestion du stress, ça a beaucoup évolué. Sur l'apprentissage des différents corps de métier, apprendre aussi à gérer ses relations, justement, avec les régisseurs, avec toutes les équipes de costumes, de maquillage, de coiffure, etc. Et tout ça, je pense que ça a été vraiment très, très fort et très rapidement des notions qui se sont ancrées.
Et que tu as pu percevoir,
oui,
finalement.
Exactement.
Et donc, tu parles des contacts que vous avez avec tous les corps de métier, c'est-à-dire effectivement les habilleurs, les costumiers, les maquilleuses, régisseurs, machinistes. En fait, ça sont tous ces personnes qui sont autour des chanteurs sur quand on fait un spectacle scénique, parce qu'on a besoin de toutes ces personnes-là pour que le spectacle puisse prendre forme. Mais avant d'arriver à ce stade-là, d'être en contact avec les équipes, toutes les équipes qui constituent, qui permettent la réalisation d'un spectacle, comment toi prépares-tu un rôle? Si tu as un rôle dans un opéra, dans un spectacle, comment, voilà, on te dit tu vas faire tel rôle, alors par quoi tu commences dans ton travail?
D'abord, c'est un travail un peu solitaire au début. Donc c'est vraiment travailler le contexte historique, l'histoire, le compositeur, etc., de l'œuvre. Ensuite, c'est faire les traductions.
Si c'est oui, parce qu'on ne chante pas toujours en français, ça c'est bien vrai.
Dans une langue qu'on ne maîtrise pas totalement, tout traduire et faire des traductions mot par mot pour exactement savoir ce qu'on raconte, et aussi des traductions un peu plus littérales pour comprendre le sens global. Moi, je travaille aussi avec l'API, la phonétique. Donc, j'écris, quand c'est une langue que je ne maîtrise pas forcément, je réécris tout dans le langage phonétique international. Donc ça prend du temps aussi. Ensuite, c'est déchiffrer, que ce soit les notes, les rythmes, etc. Ensuite, on passe au travail avec les chefs de chant.
Qui sont les pianistes.
Qui sont les pianistes
chefs de chant. Qui sont des pianistes spécialisés dans le travail de coaching. Maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle, de travail avec des chanteurs d'opéra. Exactement. Pour les encadrer dans leur apprentissage, disons.
C'est et ça. À l'Opéra Studio, on est avec Thibaut et Anaël, qui nous coachent. Et donc, c'est un approfondissement du travail qu'on a fait avant. Donc, ils vont nous dire s'il y a des corrections à faire en termes de prononciation, de déchiffrage, etc. Puis ensuite, on passe aussi au travail musical, vraiment. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quels endroits, etc. Donc ça, c'est une grosse partie du travail. Ensuite, il y a la rencontre avec les chefs d'orchestre, qui, eux, vont partager leur vision musicale de l'œuvre. Et donc, il faut s'adapter à cette vision musicale.
C'est ça. Donc, quand on a la première répétition, donc tu l'as bien dit, il y a tout ce travail de préparation, d'abord individuel, puis ensuite avec les chefs de chant. Et ensuite, il y a la première répétition avec le chef d'orchestre. Et donc, quand vous arrivez, ça veut dire que quand vous arrivez à cette première répétition avec un chef d'orchestre, vous connaissez déjà votre partition par cœur.
Oui,
c'est ça.
Sûr.
Donc, ce n'est pas juste on arrive, ça y est, ça commence le travail. Non, le travail commence encore avant.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui,
c'est ça. Et alors après, une fois qu'on a fait les répétitions avec le chef, qu'est-ce qui se passe dans le processus? Comment ça continue?
Il y a aussi avec le metteur en scène ensuite. Donc là, pareil. Alors nous, on a travaillé un personnage comme on l'a ressenti pour la première fois. Mais des fois, il peut avoir des visions différentes de l'opéra. Il veut peut-être faire une vision particulière de l'opéra ou même d'un personnage, etc. Donc c'est essayer d'accorder, de relier sa vision. Mais de trouver aussi un personnage qui nous parle et qui dans cette vision, donc c'est trouver un peu l'équilibre entre les deux. Et voilà.
Et ensuite, après, viennent les répétitions générales et puis ensuite les représentations. Et donc là, pour certaines tournées à l'Opéra Studio, il est vrai, on en fait pas mal, plusieurs dizaines. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'on voit l'évolution entre les premiers spectacles et les spectacles de fin de tournée. On voit que justement, ce côté d'appropriation des personnages se fait de plus en plus nettement pour chacun de vous, en fait, parce que il existe en vous et il mûrit en vous tout au long de la tournée. Donc c'est assez intéressant de voir ce que c'est au début et ce que ça devient à la fin. Donc tu parles des programmes d'opéra, mais est-ce que vous ne faites que des rôles d'opéra à l'Opéra Studio?
Non. On fait aussi des répertoires, des récitals autour alors de plein de sujets différents. Depuis le début de l'année, on a fait une carte blanche, donc où c'était plutôt des airs que chacun souhaitait qu'il ait représenté un petit peu, etc. Ensuite, là, on vient de faire un récital qui était très intéressant autour des compositrices. Et donc, ça nous a permis de découvrir plein de répertoires, de faire nos recherches pour voir les mélodies qu'on souhaitait chanter. Et donc, on a aussi plein d'autres, que ce soit la mélodie, il peut aussi y avoir de l'opérette. Enfin, il y a beaucoup d'autres répertoires qu'on aborde. Et heureusement, parce que le chant lyrique, c'est pas que l'opéra, et il y a tout ce qui entoure et tout se nourrit aussi. Donc, c'est important quand même.
Mais oui, c'est important. Faisons une deuxième pause, chère Inès, avec ce deuxième extrait que tu as choisi pour nous. magnifique, Elina Garanza, dans cet extrait de Samson et Dalila, « Mon cœur s'ouvre à ta voix ». Je suis en compagnie de Inès Prevé, qui a choisi de nous faire écouter ce merveilleux air et cette merveilleuse artiste. Mais pourquoi as-tu choisi cet extrait ?
J'ai choisi cet extrait, chanté par cet artiste en particulier, parce que c'est le premier air d'opéra qui m'a vraiment touchée quand j'étais plus jeune, et où je me suis dit, mais l'opéra, enfin, d'abord, le chant lyrique, en fait, c'est incroyable. C'est très moderne aussi. Enfin, c'est un langage qui peut vraiment parler. Et alors, cette version d'Elina Garanza, je l'ai écoutée des centaines de fois parce que c'est la première, je suis tombée dessus pour la première fois. Et depuis, je trouve que c'est sublime. À chaque fois que je la réécoute, c'est incroyable. Et c'est vraiment quelque chose de très inspirant dans sa manière de phraser les phrases, de raconter. Tout est sublime.
Et tu me disais tout à l'heure, pendant que l'air passait, hors antenne, tu me disais que quand tu as passé le concours à l'Opéra Studio, pour justement te calmer avant de passer, parce que c'est quand même un gros stress de passer une audition, tu as écouté cet air.
Oui, et je l'écoute assez souvent, parce que je trouve ça important aussi, parce que c'est quand même un métier qui est assez compliqué, des fois, pour le mental, pour les nerfs, etc. Et des fois, on peut être concentré sur des aspects très particulier d'une problématique, voilà. Et un peu s'éloigner de la musique. Et je trouve que ça fait du bien, justement, avant les gros stress, avant des événements importants, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et moi, je l'écoute pour me rappeler de la petite fille qui avait écouté ça et qui s'était dit « Oh, mais c'est incroyable, ce... Voilà. C'est ça aide bien.
Oui, mais oui, je comprends que ce soit inspirant. Mmh. Et donc, à ton avis, quelles sont les qualités requises pour être une chanteuse d'opéra ? Parce que là, tu nous parles de ton modèle absolu. Maintenant que tu es maintenant sur le chemin de devenir une très belle artiste toi-même, maintenant tu peux définir un peu plus précisément les qualités qu'il faut avoir ou développer pour être une chanteuse d'opéra ?
Alors, je trouve que c'est une question assez compliquée. Parce que y a beaucoup, enfin, tout ce qui est musical, scénique, vocal, ça peut beaucoup évoluer, j'ai l'impression, selon les personnes. Et c'est assez dur de juger ça objectivement, d'un point de vue extérieur. Je trouve que ce qu'il faut, c'est vraiment avoir envie de faire ce métier et être prêt à beaucoup travailler pour. Parce que c'est un plaisir immense de faire ce genre de métier passion. Mais il y a aussi beaucoup de concessions que tout le monde n'est pas prêt à faire, que ce soit sur le mode de vie, qui est quand même assez austère. Il faut pas boire, il faut faire attention à son sommeil, faire du sport. Voilà, avoir un mode de vie assez sain pour que les cordes vocales soient au top tout le temps et surtout sur le long terme. C'est un métier qui peut être assez solitaire ensuite, en tout cas le fait d'être soliste. Parce que ça bouge beaucoup, c'est des productions très différentes, on noue des liens très forts, mais du coup ensuite on repart et on se retrouve au final à chaque fois un peu seul, très nomade aussi, donc ça peut être un peu plus challengeant pour construire une vie de famille, et aussi, aussi mentalement, c'est quand même les métiers artistiques, les métiers en tout cas où on est face à du public, ça peut être dur à certains moments, parce que il peut avoir des critiques, je pense qu'il faut toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça, et il faut se dire qu'on a l'envie nécessaire et des objectifs ou des rêves de rôle, etc., qui donnent la force de vraiment continuer de tout le temps essayer de s'améliorer aussi, parce que la voix, elle va changer tout au long de sa vie. Donc, c'est important de continuer à toujours essayer de la travailler et de progresser et de voir quel est le chemin qu'elle a envie de prendre physiologiquement aussi, naturellement, etc. Pour essayer de tenir le plus longtemps et de faire aussi des rôles qui nous tiennent à cœur. Et voilà.
C'est ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de qualités, non seulement musicales, mais aussi... psychologique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai, il faut admettre qu'on va être un peu solitaire, il faut admettre qu'on va être, on peut être critiqué, parce que dès qu'on fait quelque chose public, d'une manière publique, on peut plaire à certains et pas à d'autres, donc il faut avoir une certaine, pas résistance, mais une certaine distance peut-être, parce que effectivement, se dire oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas bien fait les choses. En fait, c'est ça, ce qui est difficile dans ce métier, c'est que la critique peut vous atteindre, vous artiste, très profondément, parce que c'est vous-même qui êtes critiqué. Encore plus quand on est chanteur. Oui. Parce que c'est vraiment la voix, c'est dans le corps, enfin, l'instrument, c'est vous-même. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine solidité. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir ça au départ. Mais que ça peut se travailler comme tu l'expliquais. Petit à petit, justement, au cours d'expériences, comme à l'Opéra Studio, ou par la suite, ou comme tu as eu avant, etc. Toutes ces expériences forment à toutes ces qualités nécessaires, finalement.
Bah, par exemple, quand j'ai commencé le chant, j'étais très, très, très stressée et très timide. Et je pensais que ça serait un frein. Et je pense que d'autres personnes aussi autour de moi pensaient que je pourrais en faire un petit peu comme ça, mais que ça pourrait jamais être mon métier parce que c'est, pour mes nerfs, c'était beaucoup trop dur à gérer, le fait d'aller chanter devant des gens. Mais j'ai eu une bonne expérience qui a été assez formatrice. C'était que lors de ma première année, à la fin, il fallait chanter devant toute la classe, etc. Et ma professeure de chant m'avait donné la chanson du bébé de Rossini. Donc c'est une mélodie assez loufoque qu'il a écrite vers la fin de sa vie. Où, alors certaines des paroles, alors c'est composé en français, où certaines des paroles c'est pipi, maman, papa, caca.
D'accord.
Donc, on vient de commencer le chant, j'avais 15 ans.
Tu écoutes, mon voilà. Cœur s'ouvre à ta voix et on te fait chanter
voilà,
le bébé de Rossini.
Et donc, okay. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ah bon, vous êtes sûre? Je me sens pas trop d'assumer ça devant tout le monde. Ouais. Et ma professeure a pas lâché. Et au final, elle a eu raison parce que du coup, j'étais obligée de me dire, bon, bah, il faut y aller à fond parce que si tu le fais qu'à moitié, t'auras l'air ridicule dans tous les cas.
Oui.
Donc, autant y aller à fond et être vraiment le personnage. Et là, c'est produit à ce moment-là, à ça pour le coup, je me rappelle vraiment très bien. Mon esprit a switché et c'est comme si l'air était passé en une seconde. Alors je pense que je l'avais beaucoup travaillé, donc l'air, que ça soit vocal, musical, etc., c'était vraiment dans le corps. Et je me suis juste concentrée sur le personnage, sur ce que racontait ce bébé, voilà. Et vraiment, ça a switché. Le temps, il est passé en une seconde. Et c'était vraiment comme un shot d'adrénaline, enfin quelque chose de très puissant à vivre. Et plus du tout aucune timidité, plus aucun stress, etc. sur le moment. Et c'est une sensation que j'arrive pas tout le temps à retrouver. Mais en tout cas, c'est ce que je vise. Et quand j'arrive à la retrouver quand même assez régulièrement sur scène, et quand je retrouve ça, c'est une des meilleures sensations au monde, quoi. C'est vraiment exaltant. Et ça, par exemple, bon, bah, je l'ai appris par un déclic.
Oui, c'est
et
ça.
Voilà.
Oui, c'était toutes ces expériences. Bah, ton professeur avait vu juste, en fait. Oui. Elle t'a demandé d'aller très loin, enfin, de t'oublier finalement, d'être vraiment le personnage.
Exactement.
Et puis d'y aller à fond. Et c'est ce que tu as pu faire. Donc, t'es un petit peu faite pour ce métier, peut-être bien. On va pouvoir dire ça. Alors, justement, puisqu'on est sur les petites histoires, est-ce que tu aurais une petite histoire insolite, quelque chose d'un peu amusant ou insolite qui te serait arrivé?
Bah, quand j'ai auditionné pour rentrer à l'Opéra Studio, justement. Donc, je passais le matin. Et donc, je suis sortie très tôt pour aller marcher dans Strasbourg pour visiter et pour réchauffer le corps un petit peu. Et j'avais un hôtel qui était proche de la gare. Et je croise totalement par hasard dans la rue Pénépati, qui venait de chanter dans Werther à l'Opéra le soir d'avant, mais j'avais pas pu y aller. Et c'est un chanteur que j'admire énormément parce que je l'avais vu dans Roméo et Juliette à l'Opéra Comique. Il avait remplacé. Et je l'avais trouvé... Enfin, sublime, c'était... on avait l'impression qu'il ouvrait la voix et c'était vraiment une voix tellement naturelle qui touchait. Enfin, je respecte vraiment beaucoup cet artiste. Et donc, je le croise dans la rue comme ça. Et moi, qui suis de nature un peu réservée, je vais jamais voir les gens dans la rue, même quand ça peut être des célébrités, etc. Et là, je me dis, mais c'est un signe. Et donc, je vais le voir et j'y vais. Je lui dis juste... en plus, je lui dis en français, alors que bon, il dit, bon, alors, au final, il parlait très bien français, mais il est pas naturellement français, donc j'aurais pu peut-être l'aborder en anglais. Je dis, oh, mais j'adore ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Il me dit, ah, vous étiez là hier soir. Et je dis, non, pas du tout. Je vous avais il y a des années à Paris, mais c'était, enfin, vraiment, vous me touchez beaucoup, etc. Et je suis repartie. Et il allait à la gare prendre son train. Et en fait, ensuite, je me suis baladée, j'avais un sourire immense. Et je me rappelle, j'écoutais de la musique, et je me rappelle juste me balader et me dire, ah, mais quand même, c'est incroyable ce métier, je vais auditionner sur une scène d'opéra, ça va être magique. Alors que moi, d'habitude, je suis un peu stressée pour les concours. Et ça m'a donné, je me suis dit, ah, c'est un signe du destin. Et quand je suis arrivée pour chanter, du coup, sur scène pour l'audition, j'étais vraiment très, très, très heureuse. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter à cette audition. C'était très chouette.
Bah, mais c'est encore une personne qui t'a inspirée,
oui,
en fait. Effectivement, c'était peut-être
exactement.
Un signe. On peut le voir comme ça, parce que quand même, rencontrer Pénépati le jour de ton audition, C'était pas mal.
Exactement. Oui, il vient faire un récital là.
Oui, bientôt.
Dans quelques mois.
Très bientôt.
Donc,
oui, oui.
Hâte
c'est
de l'écouter.
Oui, oui, oui. Il est régulièrement invité à l'Opéra National du Rhin. Oui, c'est un très, très, très bel artiste. Oui. Et donc, toi, nous arrivons maintenant à la fin de notre petit moment ensemble. Est-ce que tu as des projets professionnels hors Opéra Studio ou des projets professionnels? Bon, l'année prochaine, tu seras encore parmi nous. Mm-hmm. Donc, tu vas avoir beaucoup de projets dans la saison. Mais est-ce que toi, tu as des projets que tu aimerais faire qui ne sont pas encore planifiés? Ou est-ce que tu as déjà des projets hors Opéra Studio qui se sont dessinés par des rencontres, par hasard ou pas?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas de projets qui se sont dessinés. Et donc, je compte rester une deuxième année à l'Opéra Studio.
Tu seras bien occupée.
Oui, je pense que c'est déjà bien occupée, surtout... dans la vision justement d'apprendre, de continuer à prendre des cours à côté, etc. C'est quand même un emploi du temps bien rempli. Et ensuite, pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais je pense que j'aimerais peut-être aller en Allemagne ou dans un pays étranger pour voir aussi comment ça se passe là-bas, pour aussi améliorer la langue, etc. Donc c'est peut-être une hypothèse de
Oui, c'est
de
bien.
Plus tard.
Mais de toute façon, on n'est pas bien loin en étant, en étant à Colmar, parce que l'Opéra Studio est basé à Colmar. C'est pas si loin de la frontière allemande, et donc tu peux faire un petit peu, tu peux aller de temps en temps quand même voir
Exactement.
Ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, qu'on peut passer très facilement. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on s'amuse à faire le petit portrait chinois, si tu veux bien, chère Inès. Alors, si tu étais un moment de la journée.
Le goûter. Je suis addict au sucre.
Si tu étais un opéra.
Samson et Dalila.
Bah oui, bien sûr. Si tu étais une ou un artiste.
Jesse Norman.
Si tu étais un type d'art.
La poésie.
Un compositeur ou une compositrice.
Michel Legrand.
Ah bah oui. Si tu étais un musée.
L'orangerie.
L'orangerie. Une œuvre d'art.
L'église de Van Gogh, c'est l'église d'Auvers-sur-Oise. J'avais adoré ce tableau. Il m'avait beaucoup calmée quand j'étais petite, je le trouvais incroyable. Et mes parents, pour un de mes anniversaires, me l'avaient offert une petite reproduction. Et donc, c'est une des seules décorations qui m'accompagne partout.
Oh, c'est mignon, c'est mignon. C'est pas mal comme décoration.
Oui,
ça va. Oui, oui, ça va. Et si tu étais un trait de caractère?
Le fait d'être pétillante, je pense.
Oui, je confirme. Je confirme. Nous allons terminer ce très bel entretien. Je te remercie beaucoup, Inès, d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
À ces rendez-vous de l'Opéra Studio. Je remercie le fidèle Francis qui est toujours là, fidèle au poste. Et on se quitte en écoutant Mathilde de Jacques Brel. Bonne journée à tous et à très bientôt.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque je suis là. Mon cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Apporte-nous du vin, celui des noces.
et des festins, Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de bras, Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà.
Chère Inès, on a écouté Mathilde de Jacques Brel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi cette chanson ?
J'ai choisi cette chanson parce que je trouve que Jacques Brel est un artiste qui, sur scène, était tout simplement incroyable, très intense. Et un de mes objectifs, qui je pense va être dur à atteindre, mais qui est, voilà, c'est de réussir à transmettre cette intensité théâtrale par le texte dans l'opéra. Ce qui peut être un peu plus long parce que c'est un langage qui est un tout petit peu moins naturel que bah, la variété, etc. Mais je trouve que c'est une bonne vision de long terme, d'essayer de me rapprocher de cet idéal.
Merci beaucoup, Inès.
Merci.
Les rendez-vous.
L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est en
les lents, lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.